RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal, Xavier Besson.
Et on fait le point ce matin sur les discussions, négociations de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous l'égide des États-Unis. Négociations désormais directes entre les représentants des deux pays. Mais le chef de la diplomatie rwandaise prévient qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'un accord soit trouvé aujourd'hui. Dans ce journal également, les opposants camerounais du MRC qui balayent d'un revers de la main une plainte déposée contre leur leader Maurice Kamto. Madagascar, où les autorités souhaitent investir dans le tourisme de luxe. Objectif, tripler le nombre de touristes sur la grande île d'ici 3 ans. Reportage également à Dakar, où les fans sénégalais de la culture japonaise se sont donné rendez-vous ce week-end. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Saliou Diouf et du football. Début de la Coupe du Monde du club, ainsi que du basket. Dénouement hier de la 5e édition de la balle. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui à Washington, la capitale américaine qui héberge les négociations de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Et alors que la médiation avait un temps misé sur la mi-juin, aucun accord ne sera signé, prévient le chef de la diplomatie rwandaise. Aucun accord ne sera signé aujourd'hui, dit-il. Mais les discussions se poursuivent et pour la première fois cette semaine, les délégués rwandais et congolais se sont parlé directement et les échanges continuent autour d'un projet d'accord, nouvelle version, soumis par les États-Unis, nous explique Esdras Ndikoumana.
Plus de discussions par facilitateur américain interposé ou par échange de messages WhatsApp. Depuis 2-3 jours, les experts congolais et rwandais sont face à face et discutent directement entre eux à Washington. Sur la table de négociation, un projet d'accord dont on vous a parlé en début de semaine, il s'agit d'un second draft proposé par les facilitateurs américains qui se sont basés sur les premières remontées en provenance des deux parties. Dans un premier temps, les États-Unis pensaient arriver à un accord vers la mi-juin, mais je cite, c'était l'objectif initial, il a fallu l'adapter à la réalité des négociations, a réagi hier sur X, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Les experts des deux côtés sont désormais entrés dans le vif du sujet avec pour objectif, je cite encore le MAE rwandais, de négocier un accord de paix global réaliste et mutuellement bénéfique, dit-il sans plus de précision. Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise devraient se retrouver toujours à Washington une fois un préaccord trouvé entre les experts, avant un sommet qui réunira les présidents congolais et rwandais autour de Donald Trump. Pas de calendrier rigoureux à suivre pour le moment donc, mais les Américains veulent aller vite, très vite. Ils espèrent y arriver au cours du mois de juillet, explique une source à Washington.
Esdras Ndikoumana, l'actualité de la RDC, ce sont aussi ces pluies diluviennes qui ont touché dans la nuit de vendredi à samedi Kinshasa, mais aussi sa voisine Brazzaville, pourtant en pleine saison sèche. Et des pluies qui ont causé d'importants dégâts ainsi que la mort de 19 personnes côté Congo-Kinshasa et 3 côté Congo Brazzaville, des chiffres dont les autorités précisent qu'ils sont provisoires. Des victimes également dans la province de l'Équateur, dans l'ouest de la RDC, après le naufrage mercredi de plusieurs pirogues sur le lac Tumba. 26 nouveaux corps ont été retrouvés dans les eaux hier, affirme le représentant de la société civile de la province, ce qui porte le bilan de cette tragédie à plus de 60 morts. Dimanche, jour de messe, et pour les catholiques de Goma, notamment, ce sera un jour particulier puisqu'à Rome, un laïc congolais sera béatifié. Floribert Boanachoui, fait bien heureux donc par l'Église catholique, lui qui avait été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans après avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés. Il était contrôleur des douanes et pour l'Église catholique, il est devenu une figure charismatique de la lutte contre la corruption. À Rome, Eric Sénanc.
La béatification de Floribert Boanachoui est un moment très attendu pour de nombreux Congolais, en particulier dans la ville de Goma. Aline Minani était une amie du jeune contrôleur des douanes. Elle est responsable de la communauté catholique Saint-Egidio à Goma, dont faisait partie Floribert et au sein de laquelle celui-ci s'occupait des enfants des rues.
Nous sommes préparés à vivre ces moments avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et de reconnaissance envers Dieu pour les dons de la vie de Floribert dans notre communauté de Saint-Egidio à Goma et partout dans le monde.
Et derrière la figure de Floribert, cette béatification est vue par beaucoup comme une invitation à lutter contre la corruption. En janvier 2023, le pape François l'avait d'ailleurs érigé en modèle en rencontrant la jeunesse congolaise à Kinshasa. un message toujours actuel en RDC pour Aline Menani.
Il a lutté à main nue contre la corruption et aujourd'hui pour toute la jeunesse congolaise, je pense que c'est une invitation. C'est possible de vivre, garder sa liberté même devant l'argent. Nous voyons combien de fois il y a les fléaux de la corruption qui régorgent nos institutions et je pense que Floribert c'est un modèle. Et aujourd'hui dans ce climat qui règne dans notre pays, c'est le moment de prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut suivre, emboîter les pas de Floribert Wanatchoui.
Pour des raisons sécuritaires, la messe de béatification ne peut se tenir à Goma, mais de nombreux Congolais ont fait le voyage à Rome, à commencer par Monseigneur Winnie Ngumbi, l'évêque de la capitale du Nord Kivu, et le cardinal Fridolin Mbongo, l'archevêque de Kinshasa. Eric Sénanc, Rome, RFI.
RFI, 8h35 à Yaoundé, au Cameroun, où le parti de l'opposant Maurice Kamto dénonce une manœuvre du pouvoir. Maurice Kamto, président du parti MRC, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle prévue au mois d'octobre, est visé par une plainte déposée au début du mois par l'ONG Observatoire du Développement Sociétal, organisation qui se présente comme une ONG légalement constituée et qui est aussi à l'origine d'une autre plainte contre la défenseure des droits humains, maître Alice Nkom. Cette fois, donc, l'Observatoire du Développement Social accuse Maurice Kamto devant le tribunal militaire de Yaoundé. Elle accuse d'avoir appelé à la révolution lors d'un meeting à Paris à la fin du mois de mai devant la diaspora camerounaise. Au MRC, on dénonce une ONG qualifiée de factice. Écoutez Joseph-Emmanuel Ateba, le secrétaire national chargé de la communication.
Comme toujours, ça fait partie des manœuvres du système. C'est quelque chose d'organisé, de fabriqué, de monté de toutes pièces. Si Maurice Kamto avait dit quelque chose de répréhensible, la justice est là pour s'en charger. Quand on passe par une ONG pour le faire, vous comprenez combien le montage est grossier. C'est une ONG fabriquée, c'est une ONG qui n'a aucune existence, dont on ne connaît pas les faits d'armes dans notre pays. On l'a jamais vu en action quelque part. On l'a découverte à travers la plainte contre Maître Alice Kom. Et la deuxième fois qu'elle agit, c'est contre Maurice Kamto. Donc, c'est les instruments du système, pour dire vrai. Pour donner l'impression qu'il y a des organisations autres que l'État qui sont contre Maurice Kamto. Donc, l'État ne veut pas se mettre devant. Donc, elle passe donc par ces organisations écrans pour entamer une procédure. On sait que ce n'est qu'un instrument, c'est un paravent qui a été utilisé.
Joseph-Emmanuel Ateba, l'opposant camerounais, secrétaire national de la communication du parti MRC. C'est un domaine dans lequel Madagascar investit, celui du tourisme. L'an dernier, la grande île a accueilli 315 000 touristes, un nombre que les autorités souhaitent voir multiplié par 3 d'ici 3 ans, en misant en particulier notamment sur le tourisme de luxe, loin des préoccupations quotidiennes de nombreux malgaches, mais le gouvernement assume. À Antananarive, Guillaume Fabry.
5 hôtels 5 étoiles sortiront de terre dans les prochains mois, a promis jeudi le président Ndjradzoel. Une annonce critiquée par de nombreux malgaches sur les réseaux sociaux, jugeant que ces projets ne sont pas prioritaires à l'heure où les délestages se multiplient dans la capitale. Mais cette stratégie est assumée par Sandra Afik Ramaroula, directrice générale du ministère du tourisme.
On veut avoir beaucoup plus de touristes qui dépensent beaucoup plus d'argent, qui a plus d'impact pour la population. Il faut qu'on ait beaucoup plus de chambres, notamment dans les 3, 4 et 5 étoiles, surtout dans les provinces. On a des projets comme les zones écotouristiques où on souhaiterait mettre des écologes de luxe dans les différents parcs nationaux.
Toudzlita Razafimaev, président de la Confédération du tourisme de Madagascar, principal groupement professionnel du secteur, salue l'augmentation du nombre de vols intérieurs depuis un an, mais pointe d'autres difficultés.
Toutes les régions de Madagascar ne sont pas desservies. Il faut quand même voir aussi le déplacement et la connectivité terrestre, et voire maritime. Et nous, on martèle vraiment la nécessité de voir tout ceci en priorité.
À ces défis s'ajoutent aussi des résistances locales. Dans le nord-ouest du pays, deux projets d'hôtels sur les îles de Nosy Sakati et Nosy Mitsu se heurtent à l'opposition d'habitants qui craignent de perdre leurs terres. Le gouvernement assure lui que cela créera des emplois pour les communautés locales. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, cette manifestation de plusieurs milliers de personnes hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des militants et sympathisants du PDCI, le principal parti d'opposition opposition qui réclame la réintégration de son leader sur les listes électorales. Tidjane Thiam, radié des listes, est donc inéligible après une décision de justice qui conteste sa nationalité au moment de son enrôlement. À la Côte d'Ivoire, une élection présidentielle est prévue au mois d'octobre. L'Afrique du Sud, Pretoria, annonce lancer des recherches en Angola, au Lesotho, au Zimbabwe et en Zambie. Est-ce que les Sud-Africains vont rechercher ? Ce sont les restes de militants anti-apartheid morts en exil en vue de les rapatrier. Enfin, combien sont-ils à travers le continent les fans du Japon au travers des pans de la culture nippone qui se sont exportés, comme les mangas, les jeux vidéo ou encore la calligraphie ? Au Sénégal, en tout cas, les fans se sont donné rendez-vous au Matsuri Festival à Dakar. Reportage de Juliette Dubois.
Awa et Mathilde sont devenus amis grâce à leur passion du Japon.
On était dans la même classe, mais genre on ne se parlait pas. Un jour, j'ai su qu'elle regardait les animés comme moi. Depuis
voilà,
ça,
on s'est liés d'amitié. Voilà.
C'est ensemble que ces deux étudiantes en histoire sont venues au festival Matsuri. Elles ont dévalisé le stand de nourriture japonaise.
On a acheté des mochi, des nouilles, des baguettes aussi. Bon, c'est l'événement de l'année. Hein.
Au festival, chacun s'habille comme il le souhaite. Obi est venu en tenue de boxeur. Ce membre du club japonais de Dakar interprète Hajime no Ippo, un personnage de dessin animé. Obi se réjouit que la culture pop asiatique se démocratise au Sénégal.
Avant, c'était un peu minimisé, parce que comme on dit au Sénégal, Yefou Mickey en Wolof, c'est genre pour dire les affaires des Mickey, de Disney, là, c'est pas sérieux, c'est des enfants. Les parents, les adultes disaient que ouais, tu perds ta vie, tu vas jamais rien faire avec. Mais aujourd'hui, je suis content que nous avons pu prouver le contraire, parce que cette passion m'a donné le talent d'apprendre le japonais, m'a donné la chance de rencontrer de merveilleuses personnes à l'ambassade du Japon.
Aujourd'hui, Obi donne même des cours de japonais. Un peu plus loin, Ami Diak crée des mangas sénégalais avec les Diata Twins. Les codes de dessin et des histoires romantiques sont là, mais adaptés à un public local.
J'essaie d'intégrer notre quotidien, notre vie quotidien ici au Sénégal. Par exemple, il y a des histoires sur la Tabaski, Tamkharit, les Nawetan, etc. Et donc, au moins, les Sénégalais auront leur propre histoire à eux-mêmes.
Chaque année, les festivals de pop culture japonaise comme Matsuri attirent des centaines de Sénégalais venus de tout le pays. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
À Dakar, au Sénégal, où il est maintenant 7h42. Et vous êtes avec Julien Coquelroem pour la suite d'RFI Matin.